Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes. Et juste après, on ouvre, comme chaque soir, le Club des idées. Au programme ce soir, à quoi joue la Turquie et son président Erdogan? Il appelle à son tour au boycott des produits français et fustige la politique anti-musulman d'Emmanuel Macron. Idem, au Qatar, au Koweït notamment, alors faut-il s'en inquiéter? Comment décrypter les manœuvres du président turc pour récupérer la colère du monde musulman? Quelles conséquences pour nous Français et notre sécurité? On en débattra avec nos invités à partir de 19h15. D'abord le journal et le point sur l'info avec vous Isabelle Millet. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
L'explosion, on la voit. Il y a un mois, on avait pratiquement un malade Covid. Et là, à l'heure où je vous parle, il y en a 35.
Peut-on encore échapper au reconfinement alors que la courbe de l'épidémie s'envole et que les hôpitaux sont pratiquement saturés?
Le président et le gouvernement s'activent en tout cas et multiplient les réunions. Un nouveau tour de vie semble inexorable.
On verra qu'Emmanuel Macron prépare la riposte après les nouvelles attaques du président turc qui appelle à boycotter les produits français. La France envisage des mesures de rétorsion économique.
De son côté, le Conseil français du culte musulman appelle ce soir les musulmans de France à défendre l'intérêt du pays.
Le tribunal administratif rendra demain son jugement sur la fermeture pour 6 mois de la mosquée de Pantin. Fermeture défendue par le préfet mais qualifiée d'arbitraire par les intéressés.
La réforme de l'assurance chômage également au programme ce soir, dont les syndicats ne veulent pas entendre parler, une nouvelle fois reportée, mais pas abandonnée.
Et puis J-8, la course à la Maison-Blanche dans sa toute dernière ligne droite. Et comme chaque soir, on retrouvera Xavier Yvon pour ses carnets de campagne.
La tendance météo avec le carnet météo d'Anissa qui nous a rejoint. La pluie et le vent sont de retour. Mauvaise nouvelle.
Oui, ils arrivent tous les deux par l'ouest demain et en force en plus. La journée sera donc maussade sur l'ensemble du pays. Les températures en baisse. Certains tout de même auront la chance de voir le soleil. Il y aura du très beau temps, je vous dis où à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Les choses s'accélèrent. De plus en plus de médecins, effectivement, d'épidémiologistes et de scientifiques appellent à un nouveau confinement alors que les chiffres grimpent inexorablement.
Le plan blanc est désormais déclenché dans tous les hôpitaux du Grand Est et le constat est le même. Partout ou presque, les services de réanimation arrivent à saturation. Johanna Chabas s'est rendue aujourd'hui dans un hôpital privé de Marne-Chanterenne. C'est en Seine-et-Marne, en banlieue parisienne, où la direction s'est organisée pour pouvoir accueillir un maximum de patients.
Le seul moyen pour faire face à l'afflux des patients ici, réserver un étage entier aux malades du Covid avec 42 lits. Abdelaziz Benkeli, le chef du service de réanimation, est alarmiste. Le nombre de malades augmente de façon exponentielle.
L'explosion, on la voit. Il y a un mois, on avait pratiquement un malade Covid. Et là, à l'heure où je vous parle, il y en a 35. À 17h, à 18h, notre service est déjà plein, même si on a libéré 4 ou 5 places dans la journée.
Et s'il y a autant de patients, c'est parce que l'hôpital récupère des malades d'autres établissements d'Île-de-France de la saturation. 70% des patients ici viennent d'un autre hôpital. Et Olivier Pellix, le directeur, craint que la situation s'aggrave dans les prochaines semaines. Il a surtout peur pour son personnel.
Lors de la première vague, nous étions une des régions les plus impactées et peu de régions étaient autant impactées que nous. Ici, nous avons reçu de l'aide de personnes venant du nord de la France, des Hauts-de-France, de personnes venant d'Aquitaine, des personnes venant de Savoie. Et on a été aidés. On sait qu'on ne pourra plus l'être, puisque eux-mêmes connaissent des difficultés et eux-mêmes ont un afflux massif de patients.
La solution à court terme est de déprogrammer. 40% des opérations de médecine ont été reportées ici. Et Olivier Pellix se dit prêt à réserver un deuxième étage de son établissement aux malades du Covid si la situation devait s'aggraver.
Le reportage en région parisienne de Johanna Chabas.
Et nous vous l'annoncions dès 18h. Face à cette situation, le président de la République a décidé de bouleverser son agenda. Il reporte ainsi un déplacement prévu demain au Creusot.
Et le calendrier s'accélère. Un nouveau conseil de défense restreint demain matin à l'Élysée. Demain également, en fin d'après-midi, Jean Castex recevra les forces politiques, puis les partenaires sociaux à Matignon. Et il y aura un autre conseil de défense mercredi matin, avec sans doute des annonces dans la foulée. Le gouvernement a plusieurs pistes sur la table, des reconfinements localisés, un couvre-feu peut-être abaissé à 19h, ou encore la fermeture des restaurants et des commerces non essentiels.
Et notez qu'en Ile-de-France, en raison de la baisse de fréquentation qui découle du couvre-feu, l'offre de transport va être réduite le soir à partir de mercredi et donc à partir de 21h.
La Belgique a, elle, pris de nouvelles mesures aujourd'hui. Couvre-feu étendu dans la capitale européenne. Bruxelles se met sur pause. Interdiction des activités culturelles et sportives. Cinéma fermé ainsi que tous les commerces non indispensables. Tour de vis également en Italie dès 18h. La Pologne, très touchée aussi. Le président polonais a été testé positif. Et puis la ville de Nuremberg en Allemagne annule son important marché de Noël mondialement connu.
19h04, après plusieurs jours de tensions diplomatiques entre Paris et Ankara, le président turc a officiellement appelé aujourd'hui ses compatriotes à boycotter les produits français.
Oui, une idée de boycott qui est partie au départ, on le sait, des réseaux sociaux, mais dont Recep Tayyip Erdogan a donc décidé de s'emparer. Et le président turc est allé encore plus loin, puisqu'après s'être inquiété de la santé mentale d'Emmanuel Macron, cette fois, il compare la campagne de haine contre les musulmans dirigée, selon lui, par le président français à celle contre les juifs d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale.
Alors qu'une partie du monde musulman dans la foulée de la Turquie cible notre pays, le Koweït, le Qatar notamment, Emmanuel Macron a reçu ce soir à l'Élysée les représentants du Conseil français du culte musulman.
Et à l'issue de cet entretien, son président Mohamed Moussaoui appelle les musulmans de France à calmer le jeu.
Face aux appels au boycott contre les produits français, nous appelons les musulmans de France à être très vigilants et à dénoncer ce type d'appel qui tente de diviser notre société et de séparer les citoyens de confession musulmane de leurs concitoyens. Nous condamnons clairement le dénigrement de notre pays. Ceux qui tentent de dire que les musulmans de France sont persécutés ne le sont pas. Ils sont des citoyens à part entière, ils jouissent de leur liberté. Bien sûr, il y a ce malentendu sur les quelques propos qui ont été tenus. Le président de la République il est conscient du fait que ces propos ont pu être déformés, mais nous avons dit clairement et nous continuerons à le dire que la liberté qui autorise aux caricaturistes de faire des caricatures n'oblige pas les musulmans de France à aimer ces caricatures. Ils peuvent même les détester, mais rien, absolument rien, ne saurait justifier l'assassinat ou de porter atteinte à l'intégrité physique d'un homme parce qu'il a caricaturé.
Le président du Conseil français du culte musulman au micro d'Europe 1 de Jean-Jacques Herry.
Louis de Raguenel du service politique d'Europe 1 nous a rejoint. Louis, comment le président français va-t-il riposter à ces attaques ultra-violentes du président turc? En tout cas, Emmanuel Macron n'a pas l'intention de se laisser faire.
Non, après l'indignation, la riposte, voilà l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Et à l'Élysée, l'entourage du président travaille à une contre-attaque qui pourrait entrer en action d'ici 2 ou 3 jours. À la suite du rappel à Paris de l'ambassadeur de France en Turquie, 3 pistes sont à l'étude. Premièrement, après les appels au boycott relayés notamment par les réseaux turcs, eh bien la France réfléchit à des sanctions économiques en limitant par exemple l'importation de produits turcs. Ensuite, au niveau militaire, l'exécutif envisage d'intensifier ses opérations en Méditerranée orientale. Vous savez, c'est une zone où la marine turque est très présente. Enfin, au niveau intérieur, les réseaux d'influence turque déjà bien surveillés par la DGSI, le renseignement intérieur, eh bien les contrôles et la pression pourraient se renforcer sur eux. Un conseiller du président le confie, il faut que tout le monde comprenne que c'est le pays entier qui est attaqué. Il ajoute, la menace terroriste est XXL depuis ce week-end. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a d'ailleurs convoqué les préfets ce matin, entouré du patron du renseignement intérieur, Nicolas Lerner, qui a évalué la menace à un niveau extrême. Le message au préfet est clair, grosse pression pour expulser les fichiers S pour radicalisation, détection de tous les signaux terroristes et protection particulière des églises et des symboles de la chrétienté à l'approche de la Toussaint.
Merci Louis de Raguenel du service politique d'Europe 1.
C'est une promesse du chef de l'État, fermer les lieux de culte ou les associations qui propagent des appels à la haine.
Oui, depuis mercredi soir, vous savez que la mosquée de Pantin en banlieue parisienne est fermée sur arrêté préfectoral pour une durée de 6 mois. Sauf que la Fédération musulmane locale a déposé un recours contre cette décision, recours qui était examiné cet après-midi par le tribunal administratif de Montreuil, Justin Morin, en présence du préfet de Seine-Saint-Denis, venu lui-même plaider la position de l'État.
Oui, Georges-François Leclerc s'est bien présenté lui-même à la barre devant le juge. C'est exceptionnel pour ce type de procédure. Assez à l'aise dans l'exercice, loin de l'émotion que tentent de susciter les avocats, le haut fonctionnaire a simplement rappelé le caractère proportionnel de son arrêté, l'impact de la vidéo dénonçant le cours de Samuel Paty, partagé aux 98 000 abonnés de la page Facebook de la mosquée, et le profil salafiste de l'imam permanent. Une prise de parole sobre mais efficace, en réponse à la plaidoirie plus spectaculaire de maître William Bourdon, avocat du président de la mosquée de Pantin, lui a dénoncé un arrêté préfectoral sous forme de lettre de cachet, motivé par un inventaire à la Prévert, un pot pourri de suspicions infondées.
Si du fait que dans certaines mosquées, il y a un tel imam qui n'a pas un parcours tout à fait extraordinaire, s'il faut faire d'un poste un peu maladroit et des motifs pour fermer des mosquées, on va en fermer beaucoup, beaucoup. Maintenant, on n'est pas naïf. Il y a un climat, il y a une tension dans ce pays. On ne peut pas imaginer que les juges soient totalement indemnes.
L'annonce de la mise en retrait hier soir de l'imam controversé a semblé intéresser le juge. Le préfet lui-même a salué cette avancée. Si l'arrêté est validé, cela pourrait réduire la période de fermeture de la mosquée. Le jugement sera rendu demain dans la matinée.
Justin Morin au tribunal administratif de Montreuil, en Seine-Saint-Denis.
Europe 1, Julien Bugier.
19h09, vous restez avec nous à suivre dans votre journal la réforme de l'assurance chômage reportée, mais pas abandonnée.
Et puis J-8, plus qu'une semaine avant le D-Day.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h11, c'est la suite de votre journal avec Isabelle Millet. Et pour la seconde fois depuis le début de l'épidémie, grande réunion aujourd'hui des partenaires sociaux à Matignon, essentiellement pour discuter des conséquences économiques de la crise.
Le Premier ministre en a quand même profité pour redire que le gouvernement n'entendait pas renoncer à la réforme de l'assurance chômage.
Oui, pas de renoncement, mais un nouveau report, Olivier Samarin.
Oui, ce n'est donc pas le 1er janvier prochain qu'entreront en vigueur les nouvelles règles de l'assurance chômage qui durcissent les conditions requises pour être indemnisées et qui rendent moins favorable le calcul des allocations versées aux personnes qui alternent des périodes de chômage avec des contrats courts. Le gouvernement a fixé comme nouvel horizon le 1er avril 2021, 3 mois de délai supplémentaire qui, disent les syndicats, ne changent rien au problème. La CFE-CGC, par exemple, par la voix de son président François Omeril, considère que la seule réponse qui vaille, c'est l'abandon pur et simple de la réforme.
Même si elle est décalée au 1er avril, pour nous, c'est une réforme punitive qui est une réforme anti-chômeur et absolument pas anti-chômage, faite à une période d'embellie économique qui, évidemment, a définitivement disparu.
Se donner un peu plus de temps pour mieux en définir les paramètres, oui, mais abandonner cette réforme, pas question, a aussitôt répondu Jean Castex.
Le gouvernement n'entend pas renoncer à cette réforme majeure, pas plus qu'à toutes les autres réformes qui ont pour objectif de moderniser notre pays, de le rendre plus fort et plus juste.
Pas plus qu'à toutes les autres, l'allusion est claire. Derrière celle de l'assurance chômage, c'est la réforme des retraites qui devrait être engagée. Mais là aussi, le gouvernement va se heurter à un mur. Plus aucun syndicat ne réclame cette réforme et le patronat juge qu'elle n'est pas prioritaire.
Merci Olivier Samain du service éco d'Europe 1. Dans l'actualité également ce soir, Michel Fourniret et son ex-épouse Monique Olivier de retour dans les Ardennes, là où le tueur en série aurait séquestré, violé et tué la jeune Estelle Mouzin, c'était en 2003.
Oui, 4 mois après des fouilles infructueuses, les enquêteurs espèrent cette fois obtenir de nouveaux éléments pour retrouver le corps de la petite fille.
Le procès de Bernard Tapie en appel, renvoyé à mai prochain en raison de l'état de santé de l'homme d'affaires.
Il s'agit de son procès dans l'affaire de l'arbitrage controversé. Bernard Tapie était apparu très affaibli le premier jour de ce procès auquel il avait pourtant tenu à assister.
Aux États-Unis, plus qu'une semaine avant le D-Day de l'élection présidentielle, et comme chaque soir, cette semaine à 19h, le journal de campagne avec notre correspondant. Pendant Xavier Yvon.
I'm Joe Biden.
I'm Donald Trump.
And I approve this message.
And I approve this message.
Europe won live for the American elections.
Bonsoir Xavier.
Hello, bonsoir à tous.
Alors on est à J-8 et aujourd'hui Xavier, vous êtes en Pennsylvanie. Vous sortez tout juste d'ailleurs d'un meeting de Donald Trump.
Oui, c'était le premier des 3 meetings prévus aujourd'hui. Rien qu'en Pennsylvanie, le président américain en difficulté dans les sondages s'est lancé dans un marathon électoral jusqu'à mardi prochain. Comme en 2016, il pose son avion, parle pendant une heure à peu près devant une foule de casquettes rouges qui hurlent, qui rient à ses blagues, qui profitent du spectacle et part regonflé à bloc. On nous dit tellement que nous allons perdre que j'avais besoin de voir ça, m'a dit une supportrice avec son chapeau de cow-boy aux couleurs de l'Amérique.
We'll make America great again.
Donald Trump, lui, finit en esquissant 3 pas de danse sur YMCA, maintenant c'est la tradition, et il repart. Il sera aussi dans le Wisconsin et le Michigan cette semaine, des états clés qu'il a gagnés il y a 4 ans. Et les étapes des candidats dans cette dernière ligne droite, c'est une indication sur l'état de la course. Il est donc intéressant de noter que Joe Biden, lui, sera demain en Géorgie. Pourtant, ce n'est pas un état bascule, un swing state traditionnellement, mais si son équipe l'envoie là-bas, c'est qu'elle pense qu'il a des chances. Et elle envoie aussi cette semaine sa colistière Kamala Harris au Texas, où un sondage de ce week-end donne Joe Biden coude à coude avec Donald Trump. Un démocrate qui remporterait le Texas, c'était inimaginable il y a quelques années.
Bien, on suivra ça. Il y a aussi de l'actualité à Washington, Xavier, aujourd'hui au Sénat.
Oui, c'est aujourd'hui que le Sénat va confirmer la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Seulement 8 jours avant l'élection, la remplaçante de l'icône progressiste Ruth Bader Ginsburg va changer l'équilibre de la plus haute instance juridique pour des décennies. Les démocrates sont furieux, mais ils ne peuvent rien faire. Et pour Donald Trump, c'est évidemment un argument électoral. Il en a joué tout à l'heure, d'ailleurs, dans son meeting. Rendez-vous compte, il a nommé 3 juges à la Cour suprême qui penchent donc désormais très à droite.
Effectivement, on termine, Xavier, avec le son du jour.
Oui, et c'est une autre munition pour le camp Trump qui n'arrête pas de dire que Joe Biden est sénile et qu'il souffre de démence. Écoutez le candidat démocrate hier.
4 more years of Georgia, he's going to find ourselves in a position where.
Voilà, vous entendez Joe Biden qui semble appeler son adversaire George, peut-être comme George Bush. En fait, il répond au présentateur qui s'appelle George Lopez, mais avec cette confusion, le mal est fait. La Trumposphère passe le clip en boucle. Et bien sûr, Donald Trump n'a pas raté l'occasion tout à l'heure de se moquer pendant son meeting. Il ne se souvient même plus de mon prénom, a-t-il dit. Comment peut-il être président ?
Merci Xavier. Le journal de campagne de Xavier Yvon, c'est tous les soirs dans le journal de 19h. Merci Isabelle. Et à demain, à partir de 18h. La météo avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce un temps maussade pour demain. Du gris, de la pluie et de l'humidité.
Et des températures en baisse. On en rajoute une, on rajoute une ligne. Voilà, c'est le programme qui vous attend pour ce mardi avec dès demain matin sur l'arc atlantique des pluies et du vent sur les côtes. Ailleurs, c'est mitigé, sauf dans le sud et le long de la façade est où là, il fait beau dès le début de journée et vous aurez droit au soleil toute la journée. Dans l'après-midi, la perturbation avance. Il pleut sur les trois quarts de la France. Seule l'Alsace, les Alpes, la vallée du Rhône, la Provence, la Côte d'Azur, le Roussillon, la Corse seront sous le soleil demain. Profitez-en. Les températures sont un petit peu plus fraîches, vous allez le sentir demain matin avec 3 à 11 degrés, 8 à Paris, 10 à 20 dans l'après-midi, avec 14 pour la capitale, 15 à Lyon, 17 à Marseille et 20 à Bastia. Vous m'aviez donné une mission, vous apportez de bonnes nouvelles.
Oui.
J'en ai.
Ah.
Ça va être comme ça toute la semaine, mais le week-end, le week-end de la Toussaint s'annonce printanier.
Bien, quand on sera tous confinés.
Je finis sur une bonne nouvelle.
Merci
bonne
Anissa.
Bonne soirée.
Merci Anissa, on vous retrouve à partir de 18h demain dans le 18-20. 19h17, on ouvre maintenant comme chaque soir, le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche du Club des idées, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, comme chaque lundi, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivain et essayiste Philippe Besson. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors ce soir, mon cher Philippe, c'est un coup de griffe que vous donnez à l'ensemble de la classe politique qui, selon vous, ne s'est pas montrée à la hauteur après l'attentat terroriste de Conflans-Sainte-Honorine qui a coûté la vie au professeur Samuel Paty.
Oui, Julien, on rêvait de dignité, de retenue, de décence. On rêvait, pourquoi pas, de concorde républicaine, d'union nationale, de combat commun. Ben, on a eu droit à une cacophonie, à une surenchère d'idées creuses dont certaines au relent raciste, à un concours Lépine de propositions baroques et à un parfait exemple de tambouille politicienne. D'ailleurs, comme dans un réflexe pavlovien, l'opposition a immédiatement tiré à boulet rouge contre le gouvernement.
Est-ce que pour vous, cher Philippe Besson, c'est parce que le gouvernement, justement, n'a pas été à la hauteur ?
Il est certain qu'Emmanuel Macron a mis beaucoup de temps, beaucoup trop de temps avant de se saisir de la question de l'islam radical. Son discours sur le séparatisme date seulement du 2 octobre dernier, alors qu'il a quand même été élu il y a 3 ans et demi. Reconnaissons néanmoins que cette majorité a voté plusieurs lois, notamment celle renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme en 2017, ou la loi Avia, qui visait à lutter contre les contenus haineux sur les réseaux sociaux et qui, hélas, a été censuré par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, le renseignement s'est vu doté de nouveaux moyens et de nombreux attentats ont été déjoués. Enfin, à l'évidence, c'est insuffisant.
Alors justement, les Républicains ne sont pas restés inertes. Ils ont proposé une batterie de mesures, comme souvent dans ce cas de figure-là, une épreuve de laïcité au brevet, un numéro vert d'urgence pour les enseignants, l'expulsion d'étrangers radicalisés et la fermeture des mosquées qui est un peu l'arlésienne.
Oui, absolument. Alors, on est quand même dans le gadget avec cette histoire de brevet. On est loin du compte aussi avec celle du numéro vert. Quant au lieu de radicalisation, LR semble occulter que 350 d'entre eux ont été fermés depuis 2018. Et on sait que les expulsions sont compliquées car elles nécessitent l'accord du pays d'origine qui répugne évidemment à le donner. Cela étant, Xavier Bertrand est même allé plus loin. Il réclame un référendum sur la laïcité. Quoi de mieux pour diviser les Français, je vous le demande. Il veut aussi des changements constitutionnels. Lui qui se prétend gaulliste, on marche sur la tête.
Et Marine Le Pen, quand elle réclame une législation de guerre contre le terrorisme, vous trouvez qu'elle a tort ?
Elle oublie juste qu'un parquet national antiterroriste existe déjà et que depuis 2015, nous avons cessé de multiplier les régimes d'exception et les états d'urgence. Et qu'elle a systématiquement voté contre toutes les lois sécuritaires. C'est difficile dans ce cas de venir faire la leçon.
Mais Philippe, elle demande également une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière, comme on dit dans ces cas-là, sur les responsabilités.
Oui, alors sauf que les Français se fichent complètement de savoir qu'on va peut-être réunir un comité théodule, un machin partisan qui rendra ses conclusions dans des mois. Proposition dont personne ne tiendra compte, comme d'habitude. La seule enquête qui importe, pour l'heure, c'est l'enquête judiciaire, celle qui identifie les coupables, leurs complices, et permettra qu'il soit déféré devant un tribunal.
Et la France insoumise dans tout ça ?
Alors là, la France insoumise, elle s'illustre par son absence de proposition. Il faut dire que Jean-Luc Mélenchon était occupé à stigmatiser l'ensemble de la communauté tchétchène avec un léger fumet raciste qui n'aura échappé à personne.
Il s'en est excusé par la suite.
Oui, il a bien fait. Il aurait mieux fait de ne pas faire la bêtise au début. Tout ça pour ne pas nommer le problème et faire oublier sa participation à une manifestation qui était organisée, on s'en souvient, par des collectifs représentant l'islam politique. Du reste, Manuel Valls l'a accusé d'avoir sa part de responsabilité dans la lâcheté d'une partie de la gauche, ambiance. Ce qui est sûr, c'est que de ce côté-là de l'échiquier, la liste des dénis et des accommodements est assez longue.
En conclusion, mon cher Philippe Besson, vous êtes optimiste ?
Pas vraiment. De ce point de vue, d'ailleurs, je suis à l'unisson d'une majorité de Français qui considèrent, selon BVA, qu'aucun responsable politique n'est crédible pour lutter contre le terrorisme. Mais rappelons qu'on a aussi la classe politique qu'on mérite. Il nous revient donc à tous de balayer devant notre porte et de faire bloc ce serait déjà ça.
Vous aimez bien le rappeler, ça. On a la classe politique que l'on mérite, mais vous avez raison de le dire. Merci Philippe Besson. La carte blanche du Club des idées, c'est tous les jours à partir de 19h15.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous dans quelques secondes. Le débat du Club des idées, ce soir, la Turquie et le monde arabe en débat suite aux appels au boycott des produits français. C'est notre modèle de liberté d'expression qui est attaqué. On en parle avec nos invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h24, on se retrouve dans Europe Soir avec le débat du Club des idées. Et ce soir, on s'intéresse à cette fronde anti-laïcité, anti-blasphème qui monte dans les pays musulmans. La Turquie annonce aujourd'hui un boycott des produits français après déjà le Qatar, après le Koweït. Le président Erdogan ose même comparer le traitement des musulmans d'Europe à celui des juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Même le Maroc, pays modéré, pays ami de la France, dit condamner la publication des caricatures de Charlie. Alors comment interpréter cette poussée de fièvre anti-française et quel impact sur nos relations avec le monde arabe dans son ensemble? On en parle ce soir avec nos invités. Nicolas Beau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef à Monde Afrique, auteur de « Cet ami qui nous veut du mal, le vilain petit Qatar », sorti aux éditions Fayard en 2013. On en parle également avec François Hesbourg.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes conseiller spécial de la Fondation pour la recherche stratégique. Et on en parle avec Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur des « 100 mots de la guerre » aux éditions PUF. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Rappelons peut-être en préambule que ce mouvement anti-français fait suite au discours d'Emmanuel Macron en hommage à Samuel Paty, le professeur décapité, qui a rappelé, le président français, l'attachement de notre pays au droit à la liberté d'expression et au droit au blasphème. Eh bien, voici ce que lui répond aujourd'hui le président Erdogan.
Je m'adresse à ma nation. Tout comme en France, certains disent « N'achetez pas de marque turque ». Je m'adresse ici et maintenant à ma nation. Surtout, ne prêtez pas attention aux marques françaises. Ne les achetez pas.
Voilà, ce sont des déclarations très fortes, évidemment, qui visent la France et aussi le président Macron. Alors, c'est un mouvement qui rappelle celui qui avait frappé le Danemark après la publication à l'automne 2005 de caricatures de Mahomet dans un journal. Mais pour la France, Frédéric Ancel, pour la France, c'est inédit ce mouvement de boycott?
Oui, c'est inédit. Et en même temps, pour l'instant, on n'a pas affaire à un phénomène massif. Vous avez évoqué un certain nombre d'États. Alors c'est vrai que le président Erdogan, qui d'ailleurs n'en est pas à sa première bordée d'injures vis-à-vis d'Emmanuel Macron quand même, lui, écoutez, il a une situation sociale, économique et géopolitique d'ailleurs, interne, mauvaise, voire désastreuse sur le plan économique. Il a perdu l'an dernier aux élections municipales les deux principales villes de Turquie, Ankara et Istanbul. Manifestement, les enquêtes d'opinion lui sont moins favorable qu'auparavant, donc il en fait tenter plus.
Oui.
Et au fond, de ce point de vue-là, Monsieur Macron est une espèce de punching ball extrêmement, extrêmement commode. Maintenant, pour le reste, écoutez, vous avez cité le Qatar, c'est vrai. Alors, je rappelle que le Qatar est fort de 300 000 citoyens et de 2 millions de gens, asiatiques essentiellement, qui travaillent dans des conditions absolument épouvantables. Le Koweït est un petit État, là aussi, qui n'achète pas grand-chose à la France, qui ne vend rien à la France, sauf un tout petit peu de pétrole encore, et qui achète surtout des armes. Et le Koweït ne va pas, rassurez-vous, ne va pas boycotter des armes. Le Qatar ne va pas boycotter des chasseurs-bombardiers Rafale. Donc pardon, dernier point, le Maroc. Vous avez cité le Maroc. C'est un pays très intéressant. Je le dis d'une phrase. Le Maroc est un pays allié et à certains amis et à certains égards alliés de la France, notamment en termes de renseignement. Bon. Le Maroc n'appelle pas à boycotter les produits français.
Non,
le Maroc,
mais son ministre des Affaires étrangères condamne la position française. C'est quand même une prise de position qui interpelle.
Vous avez raison, mais c'était déjà le cas à l'époque des premières caricatures de Mahomet.
Oui.
Et le Maroc, comme la plupart, pas tous, mais la plupart des autres pays musulmans, est un pays conservateur qui a parfaitement le droit de se dire choqué par telle ou telle politique.
Alors,
mais on n'appelle pas à des sanctions.
Peut-on parler, François Hesbourg, d'un mouvement coordonné d'une certaine manière du monde musulman ou en tout cas des pays qu'on a évoqués?
Non, c'est un mouvement concurrentiel.
Concurrentiel.
Vous avez d'un côté, j'allais dire, les amis des frères musulmans, c'est-à-dire l'islam politique. Ça, c'est Erdogan, c'est le Qatar. Et de l'autre côté, vous avez tous les autres, si je puis dire, tous les autres sunnites. Et il y a une concurrence tenter de capter dans l'opinion, pour avoir la meilleure image, par rapport aux vilainies que Charlie ou d'autres ont pu dessiner.
Mais on sent poindre quand même derrière tout ça une fracture identitaire, sans doute instrumentalisée par certains groupes et par certains dirigeants. Mais est-ce que ça n'est pas inquiétant, ça, de jouer le monde musulman contre l'Occident ?
Oui, c'est un monde musulman qui se joue d'abord contre lui-même.
Oui.
Erdogan veut se placer avec ses amis du Qatar et comme étant celui qui est le plus à même de défendre l'Oumma, la communauté des croyants, ses intérêts contre les horribles salafistes saoudiens, émiriens et ainsi de suite. C'est dans la sphère idéologique et le pendant de ce qui se passe sur le terrain, par exemple en Libye, oui. Où vous avez effectivement d'un côté les Émiriens et les Égyptiens qui se battent par personne interposée avec les Turcs et les Qataris.
Vous restez avec nous, Nicolas Beau donnera son avis dans quelques secondes. A tout de suite avec le débat du Club des Idées.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h32, on est toujours ensemble dans le débat du Club des Idées. Et ce soir, on s'intéresse à cette fronde contre la liberté d'expression qui monte dans certains pays musulmans, la Turquie notamment, avec les propos du président Erdogan. On est toujours avec Nicolas Beau, rédacteur en chef à Monde Afrique, auteur de « Cet ami qui nous veut du mal », « Le vilain petit Qatar ». Nicolas, votre réaction d'abord à ce qui a été dit juste avant la pause. Et puis, question directe que tout le monde se pose ce soir, y a-t-il une volonté, notamment de la part du président Erdogan, de faire une forme d'entrisme politique et de déstabiliser, aller, la démocratie française et notre modèle ?
Non, ça, je ne crois pas du tout. Dans la forme, évidemment, on ne peut que condamner les propos d'Erdogan qui sont ordurier, bon, de la part d'un homme autocratique, mégalo. Bon, encore qu'il est élu régulièrement depuis 2002, il y a 6 ou 7 élections qui ont été globalement démocratiques. Bon,
oui.
Mais ça, c'est une parenthèse. Bon, évidemment, on comprend que la France rappelle son ambassadeur. C'est pas un langage normal de relations diplomatiques. C'est des façons un peu à la trimpe, etc. Ça, aucun doute.
Oui.
Bon, là-dessus, en revanche, moi, je trouve que le propos d'Emmanuel Macron, qui, dans un premier temps, sur le séparatisme, avait tenu un discours équilibré, son discours n'est plus du tout équilibré. Pourquoi ? Pour moi, pour deux raisons. C'est qu'il parle de s'engager pour les caricatures.
Oui.
Je pense qu'il aurait mieux fait de s'engager pour la liberté d'expression. Contre toutes les religions. Et pas seulement contre eux, ce qu'avaient fait tous les présidents de la République précédents, qui toujours prenaient soin d'avoir un discours équilibré sur la laïcité. Respect du droit de critiquer toutes les religions. Et je note simplement que, par exemple, quand un dieudonné dessine des caricatures antisémites, il est condamné, et Dieu merci, heureusement.
Oui.
Et évidemment, je soutiens totalement le fait que de données soient traduites devant les tribunaux, mais c'est des caricatures donc qui ne participent pas à la liberté d'expression.
Pardon Nicolas Beau, mais ça n'a rien à voir. Le droit au blasphème, ça n'a rien à voir avec dessiner des caricatures antisémites. On ne va pas faire ce débat-là ce soir, mais la question qui est posée ce soir, c'est faut-il craindre une forme d'influence de la Turquie par les réseaux turcs au sein de la société française. On sait l'importance des réseaux turcs en France notamment, y compris d'ailleurs religieux, hein, on l'a vu avec un certain nombre d'événements. Est-ce qu'il faut craindre une forme d'entrisme, François Hesbourg, en France de la part du gouvernement turc ?
De l'entrisme, il y en a, on le voit dans la politique de financement de certaines mosquées dans l'est de la France notamment, mais je ne pense pas qu'Erdogan fasse une effet de la France, sa cible privilégiée de principe en Europe. Il se trouve tout simplement que c'est la France qui fait obstacle en ce moment en Méditerranée orientale aux ambitions énergétiques, stratégiques et d'une certaine manière religieuses dans cette région. La France ayant décidé de défendre la Grèce et Chypre, qui sont des membres de l'Union européenne. Et c'est assez vraisemblablement la présence des moyens militaires français et ceux de quelques autres pays occidentaux qui a, pendant un certain temps, convaincu les Turcs de ramener au bercail leur navire de forage, qui est revenu sur zone. On est dans quelque chose où la dimension religieuse, qui est certes très importante pour Erdogan, Mais la dimension religieuse n'est pas la seule dimension de ce qui est en train de se passer.
Mais je vous pose la question parce que tout à l'heure, on entendra les archives d'Europe 1 dans notre séquence. Le jour où le Premier ministre turc était présent à la marche du 11 janvier 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, pour défendre aussi la liberté d'expression. Donc, il y a quand même un virage qui est en train de s'opérer de la part d'un certain nombre de pays du monde arabe. Et je vous posais la question de l'entrisme de la part de la Turquie, parce que c'est la puissance étrangère la plus investie dans la gestion du culte musulman en France, qui contrôle la moitié des 300 imams détachés par des pays étrangers, alors que les Turcs ne représentent que 10% des musulmans du pays.
Attention, justement, la Turquie n'est pas un pays arabe. Elle n'est pas un pays arabe.
Oui. Et faut du monde musulman, pardon.
On a parfois un peu tendance à confondre les différents registres. Mais je voudrais, parce que j'ai le micro, dire un mot sur le boycott dont Frédéric Ancel a excellemment parlé. Mais il y a une chose dont Erdogan, je crois, a insuffisamment apprécié, c'est que lorsqu'un État, et Erdogan est le président de la Turquie, ce n'est pas une ONG, Erdogan, a dit qu'il faut bloquer les produits français, là, ce n'est plus une agression contre la France seule, c'est une agression contre l'Union européenne tout entière, parce que le commerce extérieur est une compétence de l'Union.
D'ailleurs, on a vu le soutien de Mme Merkel.
L'Union a soutenu Macron très clairement hier, après qu'il ait rappelé notre ambassadeur. Autrement dit...
Et la Turquie est le 15e client de la France avec plus de 14 milliards d'échanges.
Et surtout, l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial de la Turquie, très loin devant les autres. Alors si Erdogan commence à se friter avec l'Union européenne, l'économie turque, déjà très mal en point, comme celle de malheureusement la plupart des pays, là pour le coup... ils ne se sortiront pas du trou dans lequel Erdogan est en train de les pousser.
Alors Frédéric Ancel, réaction sur cette même question, le rôle de la Turquie en France, est-ce qu'il s'agirait aussi pour le président Erdogan de prendre la main en quelque sorte du destin des musulmans et d'apparaître comme le protecteur? C'est ce qu'affirme par exemple l'Institut Montaigne dans un rapport récent.
Oui, je suis assez d'accord avec cela. Je pense qu'il y a deux branches en réalité, ou deux angles plus exactement empruntés par le président Erdogan. D'abord, un angle politique, devenir en quelque sorte le sultan, c'est-à-dire dans cette espèce de politique néo-ottomane visant, bien sûr, non pas à recréer l'Empire ottoman, je dis bien sûr parce qu'il sait qu'il n'en a pas le rapport de force favorable, mais en tout cas une zone d'influence qui de près ou de loin peut rappeler celle que fut l'Empire ottoman, mais cela passe aussi par, et c'est l'autre angle, l'autre dimension que se donne M. Erdogan, c'est être finalement le calife, c'est-à-dire le protecteur, vous avez très bien employé ce terme, l'Institut Montaigne aussi, de l'ensemble du monde musulman sunnite. Et de ce point de vue-là, je reprends le mot très juste de François Hesbourg, il y a une vraie concurrence, d'abord, entre la Turquie et d'autres États musulmans, on pense bien évidemment à l'Arabie Saoudite, mais on pense aussi aux États arabes du Maghreb, dont les ressortissants sont plus nombreux sur l'ensemble de l'Europe du Nord-Ouest. Je passe bien évidemment sur le cas de l'Allemagne, qui est un cas très différent, voilà, qui compte davantage de gens d'origine turque, mais pour les autres pays, notamment la France, il y a une vraie concurrence entre, effectivement, la Turquie et ses pays arabes, et je pense qu'en effet, on peut parler d'un levier, c'est-à-dire que M. Erdogan est très embêté avec ce discours de M. Macron, notamment lorsqu'il s'agit de surveiller de manière beaucoup plus active les financements des mosquées, parce que là, on a affaire effectivement à un levier à la fois politique et religieux, en faveur du pouvoir à Ankara.
Oui, bien sûr, et un levier d'influence aussi. On se retrouve dans quelques secondes, 19h40, et on évoquera les conséquences sur les menaces contre les intérêts français de ces prises de parole des dirigeants étrangers. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h42, on est toujours avec le débat du Club des Idées. On s'intéresse ce soir à cette fronde anti-blasphème, d'une certaine manière, qui monte donc dans les pays musulmans, à commencer par la Turquie. Tiens, je voudrais qu'on dise aussi ce soir un mot du Qatar, pays auquel on a déroulé le tapis rouge. Outre le PSG, le Royaume détient en France la chaîne Bein Sports, les hôtels de luxe, le Martinez, le Carlton à Cannes, le prix de l'Arc de Triomphe. 24 avions Rafale ont été vendus au Qatar. Le Qatar est aussi présent dans des compagnies très importantes comme Total, Vinci, Veolia, LVMH, Vivendi et j'en passe. Et le Qatar maintenant appelle au boycott des produits français. Est-ce qu'on a été trop naïf avec le Qatar? Qui veut répondre? Nicolas Beau.
Je pense que les relations ont été sous Sarkozy excellentes. Aujourd'hui, Qatar est concurrent avec l'Arabie Saoudite et les Émiratis. Mais en termes d'influence sur l'islam de France, je pense que des pays comme les Émiratis, les Saoudiens, ont beaucoup plus financé les mosquées en France et ont envoyé beaucoup aussi d'imams salafistes toutes ces dernières années et depuis les années 90-95 par rapport à ce qu'a pu financer la Turquie qui, comme on le rappelait, est en situation économique difficile. Et pendant deux ans, entre 2017-2019, le Centre français du culte musulman, qui est l'instance représentative, même si les élections ne sont pas totalement démocratiques, a été dirigé par un imam turc. Les choses se sont bien passées et il a cédé la place à un imam marocain. Et personne ne lui a reproché dans nos services de sécurité ne l'ont pas reproché d'avoir favorisé un islam salafiste ou pire.
Vous dites attention avec les Qataris, il y a un activisme fort d'un islam plutôt fondamentaliste en France, mais pas vraiment avec la Turquie.
Alors ça a eu lieu avec le Qatar et aujourd'hui ça a plutôt lieu avec des pays qui sont par ailleurs alliés diplomatiquement de la France. C'est pour ça que le gouvernement français vise la Turquie et le Qatar avec lesquels aujourd'hui Jean-Yves Le Drian et Macron s'entendent mal. Et ils visent donc ces pays-là qui sur le plan diplomatique, comme on l'a rappelé, sur le dossier libyen, le dossier syrien, l'Azerbaïdjan, la Méditerranée orientale, etc., sont effectivement... Dans une guerre diplomatique avec la France. Mais je voudrais rappeler que, bon, bien sûr, c'est un pays expansionniste parce que Erdogan a préempté totalement l'héritage nationaliste de la date à Turc. Pas évidemment son héritage laïque. Bon, et de ce fait, il veut reconstituer l'Empire ottoman. Et nous, ça n'arrange pas les intérêts français. Donc, qu'on le contrecarre, ça ne me choque pas. Oui. Mais qu'on le désigne comme l'ennemi public numéro un, certainement parce qu'il est une diplomatie offensive. Et pour finir, je trouve qu'on devrait quand même être modeste, parce que quand on voit ce qui se passe au Mali, on a quand même occupé le Mali depuis 2013 avec 4000 soldats français. Aujourd'hui, c'est les djihadistes qui sont en train de prendre le pouvoir. Donc,
François Hesbourg,
un peu de modestie.
François Hesbourg, conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur du Temps des Prédicateurs.
Des prédateurs, pardon. Les prédicateurs, c'est pas
parce
moi.
Qu'on est dans le sujet, les prédicateurs. Aux éditions Odile Jacob, Le Temps des Prédateurs. François Hesbourg, même question, a-t-on été trop naïf avec des pays? Alors, on évoquait la Turquie, mais le Qatar, à qui on a, déroulé le tapis rouge.
Avec le Qatar, comme vis-à-vis d'autres pays du Golfe, on a été naïf dans le sens où on a été trop gourmand. Sous le président Sarkozy, l'influence qatari se manifestait de toutes les manières possibles et imaginables.
Qatar qui a quand même été soupçonné de financement de terrorisme.
Le Qatar qui finançait, ils le font un tout petit peu moins aujourd'hui, mais effectivement le Qatar... C'est pas un enfant du bon Dieu. Hein.
Oui.
Mais le Qatar n'est plus, entre guillemets, notre émirat préféré. Et par ailleurs, le Qatar a trouvé, avec la Turquie d'Erdogan, un grand protecteur. Il y a une base militaire turque au Qatar. Et ce sont des développements relativement récents. Et l'influence turque en France... je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et il y a une barrière pour les Turcs, c'est tout simplement la langue. L'immigration de première, deuxième, troisième génération en France ne parle que fort peu le turc. Il y a pas mal de Turcs en Alsace, dans le Grand Est, quelques autres micro-régions. Et j'ajoute aussi qu'effectivement, et la Turquie utilise le financement des mosquées comme un outil d'influence, d'influence d'État, alors que les prédicateurs saoudiens, qataris, émiriens et ainsi de suite s'inscrivent plutôt dans un projet culturel, idéologique, religieux. Et effectivement, du coup, souvent extrémiste.
Il nous reste quelques instants, Frédéric Ancel. Je voudrais votre avis sur les conséquences de ces attaques contre des intérêts français de la part de ces pays. Est-ce qu'il peut y avoir, au bout du bout, des menaces sur les intérêts français, mais des menaces, j'entends, terroristes, hein. Les services de renseignement nous disent aujourd'hui, depuis quelques jours, la menace est XXL, pour reprendre les mots utilisés.
Oui, mais ça, la menace, bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas nouveau. Et les terroristes islamistes n'ont pas attendu le discours du président Emmanuel Macron pour détester la France, pour plein de raisons qui, à leurs yeux, sont extrêmement bonnes et qui renvoient à la Révolution française, qui renvoient à un grand complot judéo-maçonnique qui tiendrait la France.
Mais ça crée un contexte tout de même.
Oui, non, mais bah, écoute, oui, mais enfin, vous savez, quand vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage. C'est-à-dire oui. que les islamistes ont toujours détesté la France au dernier degré, mais d'abord parce qu'elle était laïque, hein, avant qu'elle n'intervienne sur tel état, sur tel et tel théâtre d'opération. Et puisque vous ne m'avez pas posé la question, je vais quand même y répondre. Oui, je pense qu'on a été beaucoup trop naïfs avec le Qatar, dont je rappelle que la famille régnante est wahhabite, c'est-à-dire ultra conservatrice, sinon oui. tout à fait islamiste. Et j'ajoute, si je peux me permettre, que Allez-y. Je suis en désaccord avec Monsieur Beau, l'actuelle politique très expansionniste de Monsieur Erdogan ne correspond pas à celle de son prédécesseur Atatürk, qui lui était souhaitait qu'il n'y ait aucun souci à la frontière. C'était sa politique officielle et ses successeurs ont été très pro-occidentaux et ne sont pas sortis de leurs frontières. Donc là, on est sur un véritable néo-ottomanisme, comme oui. je le disais tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est François Hesbourg qui l'a rappelé, effectivement, dans le cadre de l'OTAN, mais également sur la question du Caucase, puisque la France est quand même amie de l'Arménie et la France a reconnu le génocide arménien, ce en quoi, bien évidemment, M. Erdogan s'oppose avec un négationnisme bien. Extrêmement agressif. Hein. Et puis enfin, la lutte contre Daesh. La France y a pris sa part, hein, oui. très importante d'ailleurs, tandis que la Turquie, le moins qu'on puisse dire, et le Qatar d'ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux États étaient quand même extrêmement ambigus.
Merci Frédéric Ancel, merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange sur l'importance de ces débats entre la France et un certain nombre de pays musulmans. À suivre dans quelques secondes des archives d'Europe Soir, très éclairantes, car on va revenir justement sur la marche du 11 janvier suite aux attentats de Charlie Hebdo. Et à l'époque, il y avait les représentants de ces mêmes pays qui nous attaquent aujourd'hui. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h52, on se retrouve dans le Club des idées d'Europe Soir avec, comme chaque soir, notre moment archive. On plonge dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
Une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Hélène Terzian.
Bonsoir Julien.
Vous nous avez rejoint pour nous éclairer sur ce bras de fer qui se tend entre la Turquie, mais aussi d'autres pays musulmans et la France. On en parlait ce soir avec nos invités, car c'est vrai qu'il y a encore quelques années, le 11 janvier 2015, cette fameuse marche après les attentats de Charlie Hebdo, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement marchaient côte à côte dans Paris, image solennelle, pour défendre la liberté d'expression. Hélène Terzian, il y avait parmi eux les représentants des pays qui aujourd'hui appellent au boycott des produits français.
Ah oui, rappelez-vous cette marée humaine, cette marche pour l'histoire. Près de 2 millions de personnes réunies et en tête de cortège, des dirigeants du monde entier tous alignés, bras dessus, bras dessous. François Hollande est entouré de la chancelière Angela Merkel et du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. À l'époque, le journaliste David Doucan les voit s'élancer boulevard Voltaire.
Ça y est, ils viennent d'arriver, ils se sont positionnés dans cette zone. Pour continuer à vous faire cette description, je peux vous dire que tout chef d'État qu'ils sont, tout chefs de gouvernement qu'ils sont, aujourd'hui, eh bien, ils viennent manifester comme, si j'ose dire, comme vous et moi, comme n'importe quel citoyen qui veut se lever contre la barbarie, contre la violence, contre le terrorisme.
Oui, chacun s'en souvient, c'était un moment très fort. 44 chefs d'État et de gouvernement sont là, unis pour défendre la liberté de la presse.
Et dans les rangs, il y a le premier ministre turc de l'époque, Ahmet Davutoğlu. Il y a le roi de Jordanie, Abdallah II, et la reine Rania. Il y a le premier ministre tunisien, Mehdi Joma. Il y a aussi le président palestinien, Mahmoud Abbas. Une procession très symbolique, saluée quelques minutes après par le premier ministre, Manuel Valls.
La présence, président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. C'est des symboles forts, alors il faudra aller au-delà des symboles. Mais aujourd'hui, Paris est la capitale du monde, de la liberté, de la démocratie. Je pense qu'il y a un message, et ce message, nous devons l'entendre, qui est celui du rassemblement, de l'unité, de la tolérance.
Mais derrière cette unité affichée, Hélène, il y a pourtant déjà quelques voix discordantes.
Et il y a surtout un grand absent, le Maroc. Le roi n'est pas là. Son ministre des Affaires étrangères devait le représenter, mais n'y participe finalement pas. On invoque déjà le risque de voir des caricatures blasphématoires du prophète dans le défilé. C'est finalement l'ambassadeur du Maroc qui sera présent. L'Arabie Saoudite et le Qatar sont aussi représentés par des dignitaires de second rang.
Et Hélène, on voit que cette unité se fragilise dès le lendemain de la publication de la une de Charlie Hebdo qui suit les attentats.
Oui, cette une signée Luz où l'on voit le prophète Mahomet qui tient une pancarte « Je suis Charlie » et avec ce titre « Tout est pardonné ». Cette nouvelle caricature ne passe pas. Des manifestations éclatent au Mali, au Niger, en Algérie et en Turquie. Le même premier ministre turc qui était là dans le cortège du 11 janvier condamne ce dessin. La liberté de la presse ne signifie pas la liberté d'insulter, dit-il. À Istanbul, pour Europe 1, Marie Forestier raconte qu'un seul journal d'opposition n'a pu évoquer et très discrètement cette une.
Ils ont juste reproduit la une à l'intérieur, dans un petit encart, pour illustrer un éditorial. Et toutes ces précautions étaient bien nécessaires, car la police est allée vérifier à l'imprimerie pendant la nuit si le journal ne contenait pas de caricature de Mahomet.
Déjà, la présence de la Turquie le 11 janvier 2015 pour cette marche historique avait interrogé. C'est en Turquie que la liberté de la presse est parmi les plus bafouées au monde.
Merci Hélène. Hélène Tarzian pour les archives d'Europe 1, le jour où.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Dans un instant, le rappel des titres, suivi de l'émission d'Émilie Mazoyer pour se détendre un peu en musique, ça va nous faire du bien. Quant à moi, je vous donne rendez-vous même lieu, même heure à partir de 18h pour le 18-20. Bonsoir.